Alors, notre premier intervenant est Gaspard Turin, qui est assistant à l'Université de Lausanne. Il prépare actuellement une thèse sur la direction de Jean Kämpfer, qui est à l'origine un Balsacien. Une thèse qui porte sur le phénomène de Liszt dans la littérature contemporaine, en touchant à Quignard, Chevillard, Modiano, Pagès, Volodine. Mais la liste n'est pas close. Il a publié dans diverses revues, dont Littérature, et va bientôt publier quelque chose dans les cahiers Pérec.
Voilà, merci beaucoup. Je m'étais dit que j'allais commencer cette intervention par 10 minutes de silence, mais je pense que ce n'est pas une excellente idée. Oui. Donc, allons-y. Peu à peu, je commençais à sympathiser avec le barman. Nous parlions de football, de courses automobiles. L'absence d'une langue commune ne nous décourageait pas. Sur le cyclisme, par exemple, nous étions intarissables. « Moser, disait-il, Merx, faisais-je remarquer au bout d'un petit moment. « Copy, disait-il, Fausto Copy. » Je tournais ma cuillère dans le café, approuvant de la tête, pensif. « Bruyère, murmurais-je. « Bruyère, disait-il ? » « Oui, oui, Bruyère. » Il ne semblait pas convaincu. Je pensais que la conversation s'en tiendrait là, mais alors que je me disposais à quitter le comptoir, me retenant par le bras, il m'a dit « J'immondis. » « Van Springel, répondis-je. « Plankert, ajoutais-je. Direx. » Willems, Van Impe, Van Looy, De Vlaminck, Roger De Vlaminck et son frère Eric. Que pouvait-on répondre à cela ? Il n'insista pas. Je payais le café et remontais dans ma chambre. Communication minimale entre deux protagonistes, sous forme d'énumération de noms propres, construction d'une communauté, échec relatif de la communication en vue de sa tournure agonistique. Jean-Philippe Toussaint serait-il un hétéronyme d'Antoine Volodine ? Plus sérieusement, et puisque la formule post-exotique « parlons d'autre chose » ne vaut pas comme programme lors d'une intervention critique, je vais vous livrer l'objet de mes réflexions. Il s'agit d'une étude de la liste chez Antoine Volodine, accompagnée du postulat selon lequel la liste est un procédé d'écriture central dans l'esthétique de Volodine. Je précise d'emblée qu'il y aurait plus à dire sur ce sujet, plus d'exemples et de contre-exemples à proposer que ce que je m'apprête à dire. Je précise également que mon propos, bien que je l'espère rigoureux, n'est pas exempt de digressions, de pistes à suivre et possiblement ici et là de petites faiblesses épistémologiques que vous êtes évidemment droit de relever si le cœur vous en dit, mais pas forcément non plus. Voilà. La liste est présente sous diverses formes, sous diverses modalités, que je divise grossièrement en trois. Les noms d'espèces, les slogans et les noms propres. Pourquoi diviser en trois ? Alors, les noms d'espèces, comme les champignons dans Dondog, la liste des champignons dans Dondog, je reviendrai dessus. Il y en a diverses autres, énormément de listes d'herbes dans Lisbonne Dernière Marche, dans Nos animaux préférés. Et récemment, j'ai vu qu'un petit ouvrage était sorti dont je n'avais pas connaissance, qui contient, si je ne m'abuse, une chaga d'Antoine Volodine, entièrement composée de listes d'espèces végétales. Liste de slogans, notamment la liste des contres à la fin de Lisbonne Dernière Marge, la liste des mots d'ordre de Cornelia Orff, on en a parlé ce matin dans le port intérieur, les slogans de Cotter. Et enfin, liste de noms propres, avec en première ligne les listes de noms propres qui figurent dans le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11. Mais il y en a évidemment d'autres, notamment la table des matières de Des anges mineurs qui est présentée comme une liste d'anges mineurs qui ont traversé l'ouvrage en fin de volume. Alors pourquoi diviser en trois ? En fait, ce n'est pas vraiment pour des raisons précises de poétique, c'est plutôt sur un plan heuristique, un plan qui va me permettre de prendre un exemple de chacune de ces trois modalités pour voir quelle est la place de la liste au sein du texte post-exotique, quel est son statut, également sur un plan énonciatif. Alors, premier exemple, les listes d'espèces. J'ai pris cette liste de champignons dans Dondog, qui est une partie de cette liste de champignons qui apparaît, réapparaît, disparaît, réapparaît. Je vais la lire. Dondoc pourrait procéder à des énumérations, comme il les aime, comme toujours il les a aimés, dans l'adversité et dans ses récits d'inquisition et de naufrage. Tout en persistant à clamer son innocence, il pourrait parler tantôt de chanterelle pourrie, tantôt de clavaire pourrie, tantôt de coprin pourri, et il pourrait plus tard citer la clavaire en souffleur pourrie, la clavaire crépue pourrie, la chanterelle sinueuse pourrie, la chanterelle jaunissante pourrie, la calosserre visqueuse pourrie, le dacrymis en forme de goutte pourrie, la morie commune pourrie, le coprin chevelu pourri, le coprin pied de lièvre pourri, le coprin blanc de neige pourri, le coprin noir d'encre pourri, inlassablement précisant après chaque mention qu'il n'avait jamais songé associer Madame Axenwood à ces humbles manifestations de la nature. La liste des champignons survient dans le contexte agonistique très particulier d'un interrogatoire que Dondog, enfant, subit face à sa mère. Cette liste apparaît comme un entre-deux, une alternative au partage du roman entre discours et récit, si l'on accepte ce partage énonciatif basique comme constitué d'une alternance entre récit et discours rapportés, partage que l'on doit indirectement à Émile Benveniste. Cette différence de plan narratif est d'ailleurs implicitement induite par les premières lignes de l'extrait dans l'adversité et dans ses récits d'inquisition et de naufrage. L'adversité, c'est le dialogue, c'est le discours rapporté, le contexte agonistique. On sait que le contexte discursif est très souvent confrontationnel chez Volodine, au point d'être, je cite Lionel Ruffel, le diapason de toute relation humaine. On observe que les discours rapportés, indirects ou directs, sont très souvent l'occasion d'une polarisation des protagonistes aux places de victimes et de bourreaux, places parfois interchangeables. On constate aussi que le récit est également très souvent le résultat d'une pression agonistique poussant l'énonciateur à produire, contre sa volonté, une parole qui devient récit, qui devient littérature. Or, la liste est ici une sorte d'entre-deux, de troisième voie entre discours et récit. Elle empêche l'interrogatoire de se poursuivre, étant monologique, monopolisant la parole. Elle est également une répétition constante du même, un blocage syntaxique qui empêche le récit d'advenir, en embrayant constamment sur lui-même. La liste est donc une sorte de troisième lieu de la parole, une échappée. Elle est l'affleurement d'une voix plus directe que celle des protagonistes des romans, aussi parce que, et on le voit dans cet exemple, la richesse lexicale déployée entre en conflit avec les savoirs du personnage supposé la déployer, d'où le fait que ce passage soit au conditionnel, d'où le fait que la phrase qui clôt, que j'ai un peu décontextualisée, mais qui clôt mon exemple, vous pouvez la lire, « Dondog en cela ne connaissait que la girole, la veste de loup et champignons de couche. » Je reviendrai sur cette question plus tard. Pour l'instant, je me contente de postuler simplement une mise au pluriel de l'instance énonciative dans le cas de la liste, une mise au pluriel confirmée par Volodine dans le post-exotisme en dit leçon 11, également avec une liste. En effet, la signature post-exotique est imputable, je cite, à un auteur proclamé ou anonyme, un prête-nom, un porte-parole, un hétéronyme, un collectif, un mort ou une morte. Cette mise au pluriel apparaît également dans mon second exemple, la liste des contres dans Lisbonne dernière marge. Durant tout ce roman, les séquences de littérature post-exotique, telles qu'imaginées ou écrites par Ingrid, voire par Kurt, s'alternent avec le récit et les dialogues du couple en attente, en transit, à Lisbonne. Alors que les séquences post-exotiques sont au départ clairement distinctes du récit principal, au fil du roman, les deux niveaux littéraires se rapprochent et finissent par se fondre l'un à l'autre. Dans la dernière séquence du roman, l'alternance se fait plus rapide entre récit principal et récit post-exotique, Einige Einzelheiten über die Seele der Fälscher, récit en italique dans le corps du texte et qui justement présente à cet endroit une liste. Je vais juste lire la liste en question. Contre la presse pourrie, contre les exploiteurs du tiers-monde, contre les esclavagistes, contre les trafiquants de chair humaine, contre les églises, où qu'elles soient, contre les ouvriers trop zélés, contre les aigles impérialistes, contre les esclaves contents de l'être, contre les massacreurs de l'esprit, contre les riches, contre toutes les guerres non rouges, contre le complexe militaro-industriel, contre le roi du poulet, contre les anciens SS recyclés, contre... D'une part, cette liste est une reprise plus ou moins orthodoxe de mots d'ordre non fictionnels avérés comme appartenant au programme politique de la Rote Armée Fraction, on l'a vu avec Anne Roche. D'autre part, l'alternance récit principal, liste enchâssée, telle qu'on peut la constater dans cet exemple, Cette alternance se répétant plusieurs fois durant ce chapitre, la liste des contres apparaît en fin de roman comme un condensé urgent de toute la littérature post-exotique qui précède. Cette littérature post-exotique se trouve ainsi réduite, comme on peut le dire, d'une sauce. Elle est le discours essentiel qui pousse de plus en plus sous le récit d'Ingrid, qui affleure à sa surface, et de Courte, qui affleure à sa surface comme s'il était l'expression d'une foule tendue, difficile à contenir. Ce troisième lieu de la parole apparaît donc également comme l'expression d'une collectivité, obéissant en cela à l'un des principes de base du post-exotisme. Lorsqu'aucun exemple ne vient étayer mon discours, j'ai pensé l'agrémenter avec des photos que j'ai trouvées et que je ne commenterai pas. Ces deux exemples ont surtout servi à démontrer que la liste était un lieu clé du post-exotisme, qu'elle apparaissait souvent au sein du roman à son point d'intensité ou à un de ses points d'intensité maximaux. La mention de leur existence plutôt que leur présence effective au sein des textes témoigne également de cette intensité. Et je vous donne maintenant l'extrait de la leçon 11. Nous n'avons pas flanché quand nous avions mal, nous avons fait semblant de flancher, nous avons fait semblant d'être terrorisés, nous n'avons pas hurlé notre désarroi sur tous les tons, notre désespoir. Au lieu de nous plaindre, nous avons égrené de longues listes d'oiseaux, des listes de peuples décimés, de singes, de poissons. Nous n'avons presque pas parlé des tabassages que nous subissions. Nous avons inventé des noms de plantes et d'herbes petites, nous nous sommes attendris à l'idée de ces végétaux infimes, nous avons eu envie de les chanter, nervure à nervure, et ainsi, nous les avons chantés, nous n'avons presque jamais raconté les histoires que l'ennemi attendait de nous. Présence de la liste au sein du texte post-exotique, mais aussi objet d'un commentaire métatextuel sur cette littérature. Avant de présenter la troisième liste, la liste de noms propres, qui donne son titre à cette étude, qui aurait dû, j'en suis conscient, apparaître un peu plus tôt dans mon exposé, je vais encore avoir l'air de parler d'autre chose. Après avoir observé les lieux de la liste et les avoir identifiés comme lieux stratégiques du post-exotisme, je vais en interroger les fonctions. Il y en a deux. Ou du moins la subdivision en deux grandes fonctions catégorielles de la liste me convient-elle sur un plan général? L'une est négative et l'autre positive. En ce qui concerne la fonction négative, il s'agit justement de parler d'autre chose. Le contexte agonistique, pour citer Ruffel une seconde fois, est une sorte de sas, une ligne de partage entre le monde et les camps, entre la police et la marge. On retrouve l'idée d'une échappée de la parole ou d'une évasion par la parole. Dans cette logique, la liste, en tant qu'énoncé, discursif, est déceptive. Je cite la leçon 11. « La liste aux apparences objectives n'est qu'une manière sarcastique de dire à l'ennemi, une fois de plus, qu'il n'apprendra rien. » La fonction négative de la liste pousse en dernière instance l'énonciateur à se taire. C'est un devenir aphasique du récit. C'est un désapprentissage du langage en direction d'une régression, un pis-aller avant le silence, un geste final. La liste est, dans sa fonction négative, un moyen de parler assimilable à un savoir-survivre, un langage technique, au sens de techné, c'est-à-dire de savoir-faire. Elle est une stratégie doublement efficace pour éviter de donner à l'interrogateur ce qu'il souhaite, étant d'une part langage asyntaxique et donc ne nécessitant qu'une fatigue moindre pour le cerveau qui la produit, d'autre part étant le contraire du récit, le contraire de l'histoire, de l'intrigue, du plan organisé qui est la parole que l'on souhaite entendre en tant que lecteur, de la part du personnage narrateur. On peut rappeler au passage une connivence dont il n'est plus nécessaire de faire la preuve entre la figure du bourreau et celle du lecteur, peut-être la métalepse la plus importante de toutes celles dont Volodine fait usage. À ce sujet, parenthèse, peut-être y a-t-il une remarque à faire, malgré cette métalepse qui offre la place de bourreau au lecteur, si celui-ci exige une histoire, le vrai bourreau demandera quant à lui justement le contraire, pas de roman. Et parmi les choses qu'il demande en priorité, il y a des listes, des noms. La liste fournie sous la contrainte est donc une sorte de leurre dans le leurre. Je ferme la parenthèse. Quant à la fonction positive, la liste est une résurgence d'un travail de la voix narrative sur sa propre mémoire. Pour reprendre les propos de Lionel Ruffel, encore une fois, mais dans le dénouement cette fois, les deux autres étaient tirés de sa thèse, Donc, ouvrez les guillemets, faire preuve de mémoire et se livrer à un devoir d'inventaire sont deux activités concomitantes. La technique de survie se double d'une mnémotechnique, récitation litanique, par exemple, de tâches à accomplir, comme on a vu celle de Varvalia Lodenko dans Des anges mineurs. On rejoint avec cet exemple l'idée esquissée par Pierre Ouellet mardi, d'une transmission orale et directe de l'information, d'un narrateur qui serait plutôt conteur ou rhapsode, selon un mode littéraire que l'on pourrait, de manière inattendue, qualifier de présocratique, dépourvu de vérité centrale, de logos platonicien. Je reviendrai là-dessus en toute fin d'intervention. Transmission, donc, plutôt que dissimulation de l'information, c'est aussi un exercice d'usage de la parole, une révérence à la beauté des signifiants, une jouissance, une volupté du verbe. À la techné s'oppose une poiesis, une activité d'écriture qui est aussi une activité de récupération de mots en débâcle. Anne Roche parle d'activité du chiffonnier, ramasser ce qui a été rejeté, abîmé par d'autres, recycler, rapiécer, rabouter et aussi, pourquoi pas, déchirer, défaire, détricoter pour transformer. La liste est une activité contagieuse. Mots en débâcle, mais qui le sont un peu moins que le monde dont ils pourraient rendre compte si le monde avait la richesse de la langue. Je cite Des anges mineurs. Citons pour la beauté du nom l'Ontario, le Dakota, le Michigan, la Tchoukotka, la Bouriassie, le Laos. Là où la fonction négative avait en perspective de l'énumération le silence, la fonction positive a comme perspective la logorée. C'est finalement tout ce qui reste encore à dire et à écrire. Les listes de morts dans Écrivain que Volodine nous a lu mardi sont récupérées par Nikita Kourilin, dont le grand œuvre consiste à récupérer ses morts en déshérence et ne pas laisser Abrashin Stepan Fyodorovitch isolé dans son matricule sans lui reconstruire une histoire, lui faire à lui et aux autres un tombeau littéraire. On retrouve ici l'idée de Gérard Genette selon qui le récit serait, je cite le discours du récit, l'expansion d'un verbe. En point de mire, une liste accumulative fonde l'idée, parfois réalisée mais pas toujours, d'une logorée. La liste est donc à la fois fracture de langage et continuité, arrêt brutal et recommencement. En elle se condensent les notions, dont on a vu qu'elles étaient centrales, du commencer et du finir. Et les gestes finales, quand elle est rupture, brisure, et quand elle reprend, lorsqu'elle réembraye par un terme supplémentaire, elle est un geste inaugural. J'emprunte cette formule à Mikhaïl Issacharov et Leila Madrid, que je cite. Ce qui importe pour l'écrivain est le geste inaugural de l'écriture qui permet de nommer et par là même de mettre au monde. Au passage, je note que cette séparation rejoint celle que Dominique Viard propose dans son article « Situé Volodine » en établissant l'existence de trois espaces, un espace de résistance, un espace de liberté et un espace de mémoire. Une tripartition que je me propose de réduire à deux parce que le troisième fait peut-être un peu double emploi en ce qui me concerne. C'est un peu commode, n'est-ce pas ? Mais je laisse de côté l'espace de liberté qui me paraît être une émanation un peu instable des deux autres. J'observe que l'espace de résistance correspond bien à cette fonction négative et l'espace de mémoire à la fonction positive de la liste. J'en viens à mon troisième exemple, qui est tiré d'un écrit d'Antoine Volodine qui s'appelait « La stratégie du silence » dans l'œuvre de Robert Marie Pierrot. Alors, il est possible que vous n'ayez pas tous lu cette nouvelle, je ne sais pas comment trop l'appeler, parce qu'elle est parue en 2008 dans un recueil qui est le recueil Défense et illustration du post-exotisme en 20 leçons, qui sont les actes du colloque organisé par Pierre Ouellet et Frédéric de Thule. Le texte figure également dans le nouveau roman de Volodine, écrivain, sous le nom de « La stratégie du silence » dans l'œuvre de Bogdan Tarasiev. Je me référerai toutefois à la première mouture de ce texte, mais quand je dirai Robert Malipirou, vous voudrez bien remplacer intérieurement ce nom par celui de Bogdan Tarasiev. J'en profite ici pour remercier chaleureusement Antoine Volodine de m'avoir spontanément fourni le texte à paraître que je ne connaissais pas et dont j'avais aucune idée qu'il allait paraître dans le roman écrit. Donc, la stratégie du silence dans l'œuvre de Robert Alpiero, c'est un pastiche d'articles savants, et en fait c'est une sorte de nouvelle, pastiche d'articles sur un auteur fictif, inconnu du grand public, Robert Malipiero, méprisé par la critique officielle, publié pratiquement sur des malentendus, alternant les périodes de publication et de silence, silence aussi sur le plan de la médiation de sa propre œuvre ou sur un plan biographique. On ne connaît de lui pratiquement que ses fictions. Un peu par hasard, l'attention d'un critique officiel nommé Blotnow se porte sur son œuvre. Facile à identifier et à cataloguer sur un plan le fait que tous ces personnages s'appellent Wolf ou portent des noms phoniquement proches de Wolf. Malipiero n'accède bien sûr pas à la réussite, ni même à la reconnaissance, hormis dans un tout petit cercle d'initiés. À la fin de sa vie, atteint d'une maladie de peau, Malipiero se retrouve, encore une fois un peu par hasard, sur un plateau de télévision à une émission consacrée, bien sûr pas à son œuvre, mais aux complications articulaires de son psoriasis. Suite à cette médiatisation et sans qu'il l'ait véritablement souhaité, il se retrouve dans un dîner officiel de gala où il tue un ministre et deux secrétaires d'État avant de se suicider. Il agit ainsi en conformité avec les personnages de ses récits, Goethe, Untermenschen, lorsque ceux-ci ont pour mission d'éliminer les responsables du malheur. On trouve dans sa poche une enveloppe où se trouvent écrits ces mots qui constituent l'excipit de l'article. Si vous désirez que votre voyage jusqu'à la mort prenne tout son sens, si vous souhaitez savoir pourquoi vous êtes resté silencieux, faites comme moi, signé Wolf. La liste des Wolfs, au centre de ce texte, est l'inventaire des différents noms ou des différentes graphies du même nom que Malipiero utilise. C'est une liste qui possède l'avantage d'être spécialement représentative de la double fonction que cette forme induit et d'être incluse au sein d'un texte qui problématise la finalité de l'usage de la liste chez Volodine. Voici cette liste que je lis sans vraiment bien savoir si vous prononcez le W ou V. Wolf, Wolf, Wolfo, Wolf, Walef, Wolof, Wolof, Wolf, Holf, Huluf, Wolof, Wolfo, Vlaf, Vlafo, Wolve, Folf, Fluff, Vulve, Vulvo, Volop. Elle témoigne d'un procédé littéraire propre à l'œuvre de Malipiero qu'il appelle « étrécissement onomastique » et dont, je cite, « la manifestation est un manque de variété dans la nomination des personnages ». Elle est constituée selon un procédé qui n'est pas anagrammatique, qui n'envisage pas l'inventaire et l'épuisement des possibilités d'un ensemble de lettres ou même de phonèmes. C'est en cela que, bien qu'elle soit finie, elle reste une liste ouverte, à l'image de la plupart des listes qu'on peut trouver chez Volodine. Même les inventaires, comme les leçons 1 et 10 de la leçon 11, comme tous les inventaires, contrairement aux accumulations, procèdent d'une logique d'exhaustivité et de fermeture, même ces inventaires peuvent voir leur unité fissurée, notamment par l'arrivée au sein de l'univers post-exotique d'un titre ou d'un nom d'auteur inédit. C'est précisément le cas du nom de Robert Malipiero. Il y a deux manières d'envisager la lecture d'une telle liste. L'une consiste à s'arrêter sur chaque nom pour y déceler des traits identificatoires qui le distinguent de ses voisins. L'autre serait de la considérer en bloc, en envisageant à l'inverse qu'il s'agit du même nom répété plusieurs fois. C'est par exemple la vie partagée par les acteurs du paysage littéraire contemporain de Malipiero, pour qui ce dernier apparaît comme, je cite, « ce type qui appelle tous ses personnages de la même manière ». À ce stade, je voudrais faire une rapide comparaison entre la version publiée en 2008, sur laquelle je fonde mon intervention, et la version à paraître en 2010, sur un point de détail. Car sur les deux versions du texte, la plus récente, celle à paraître, opère un léger changement qui va dans un sens qui m'intéresse. C'est une description de la prose de Malipiero. Version 2008, le lecteur est traîné là-dedans maintenant que Wolf, et ne peut pas sortir de ce discours avec sa mémoire et ses blocages, ses silences. Version 2010, le lecteur est traîné là-dedans maintenant que Wolf, et ne peut ni se dégager de la boue, ni se distancer du discours de Wolf, avec sa mémoire, ses ruminations, et aussi ses blocages et ses silences. Le changement a l'air de nature cosmétique au premier abord, n'était-ce d'une part le premier passage souligné qui a été rajouté. Celui-ci insiste sur un engagement de lecture très fort et sur l'impossibilité de choisir son mode de lecture une fois cet engagement pris. C'est le choix entre considérer que les Wolfs ont tous le même nom, pour Volodine faire comme Blotnow et faire comme les critiques, c'est-à-dire ne pas lire, et entrer dans l'exégèse de chacun de ces noms. D'autre part, il y a la reconstruction de la séquence soulignée, la deuxième séquence soulignée. On voit là aussi que le métadiscours sur le post-exotisme se polarise plus radicalement en faveur d'une double tendance qui confirme les deux perspectives herméneutiques de la liste. D'un côté, la mémoire et ses ruminations, de l'autre, ses blocages et ses silences. Dans les termes de nos deux fonctions principales, cette double polarité correspond à la logorrhée et au silence. Concernant l'idée de boue, qui rejoint celle du goudron dont a parlé mardi Thierry Saint-Arnoux, j'aimerais l'associer également à un troisième terme qui est l'idée de pâte. L'idée de pâte de la langue, un terme qui apparaît chez Voligny à plusieurs reprises, notamment dans « Vue sur le suaire », que je cite rapidement, « Il brassait en une seule pâte posthume des amis tels que Wolfgang Gardel, Irena Etcheguyen, etc. » Il y a une liste, évidemment, après ça. Dans Bardot, notre Bardot aussi, on parle de pâte phonétique. Il y a une proximité des matières, évidemment. Et c'est une notion qui m'intéresse dans la mesure où il véhicule une idée de la langue à la fois homogène, c'est-à-dire dont les éléments constitutifs sont solidaires au point d'être indissociables les uns des autres, et inhospitalière. La pâte englue, celui qui s'en sert, à plus forte raison si le lieu de son usage est la bouche. Cette pauvre bouche déjà si malmenée hier par Bruno Blankmann. La fonction négative de la liste par laquelle l'auteur post-exotique parle, mais sans souhaiter être compris, ou pas de tous en tout cas, est à l'œuvre dans cette idée de langue conglutinante qui ne peut être envisagée que d'un bloc. Cet état de fait condamne le lecteur potentiel à une extériorité totale, c'est le cas de Blotneau, ou à une immersion elle aussi totale. La pâte est au langage ce que le goudron est au monde, c'est le seul liant par lequel on obtient une forme homogène, la seule indiscutable continuité de la matière par laquelle une unité formelle, une continuité peuvent advenir. La pâte de la langue impose son harmonie au lecteur qui, pour entrer dans le texte, doit accepter de ne faire aucune concession face à lui. Tout comme le « Retour au goudron », dernier titre de la leçon 11, apparaît comme une uniformisation de la condition humaine par la mort, nivellement inéluctable du destin de tout un chacun. Cette hostilité scripturale fait de Malipiero un représentant a priori typique du post-exotisme, bien que le lecteur n'ait pas accès au texte même. Il faudrait sans doute modérer cette identification dans la mesure où, si les romans de Malipiero ont pour base une société, alors je cite l'article, une société close sur elle-même, totalitaire, qui fonctionne sur la barbarie intellectuelle, la propagande et le mensonge, ou des univers toujours sombres et déchirés, traversés d'images et d'hallucinations extraordinaires, fermez les guillemets, il s'agit également d'un monde qui, je cite à nouveau, se réduit à une traversée horrible. Dans ce sens, nous avons peut-être affaire à une littérature post-exotique qui procède d'un degré supplémentaire dans l'horreur ou dans l'immonde que les romans d'Antoine Volodine ou même de Lutz Bassmann. Pourtant, une forte familiarité intertextuelle existe entre la liste de Malipiero et celle des autres auteurs post-exotiques. Familiarité qui se constate au premier chef dans la présence du nom de Wolf et de ses déclinaisons dans les autres ouvrages d'Antoine Volodine, donc je vais citer sans être exhaustif... dont je vais citer certains, on a le nom de Wolf Ogowin dans Les Anges mineurs, le nom de Rebecca Wolf dans La leçon 11, qui est l'auteur de La chasse au Platonov Moqueur, le jukebox dans Bardot, Ornod Bardot, qui se nomme en réalité Volup Schlum, le dodécaphone, Volup Golpiez, qui est le véritable pseudonyme de Volodine, tel que présenté sur la quatrième de couverture du Navire de nulle part, l'oncle Volp du Rituel du mépris, ou encore le nom de code du fonds anonyme Setterwolf 1010 dans Lisbonne dernière marche. Cette ouverture sur l'intertexte ou l'intratexte post-exotique nous pousse à opposer à l'inexorable d'un langage pâteux, à l'appréhension unanimement excommuniante d'un langage rendu aporétique par la prétendue répétition du même, à opposer donc à cela une micro-lecture de la liste des Wolfs. L'autre manière de lire la liste achoppe dès lors sur une herméneutique classique qui conduira à identifier derrière les déclinaisons des Wolfs diverses pistes, dont les plus intéressantes seront par exemple celles du devenir animal cher à Deleuze, comme le syntagme de Setter Wolf le suggère, un devenir animal fondé sur une sorte de dédomestication. On lira également dans la polysémie qui s'installe entre les désinences Wolf et Wulf, une ambivalence par laquelle le brouillage entre humain et animal se déporte également sur les identités sexuelles des protagonistes post-exotiques. Je précise au passage que j'ai tenté de ne pas trop rapprocher les concepts de devenir animal et celui de devenir femme, sans totalement y parvenir. Les féministes et crypto-féministes, à ça, voudront bien accepter mes excuses. On pourrait parler également de Virginia Woolf, ça pourrait être un sujet de thèse. Mais il y a un autre sujet de thèse que je préfère encore, c'est l'ingénieur Wolf dont on a marché sur la Lune. On avait objectif nul tout à l'heure, et là on a Tintin, vraiment Tintin et Volodine, il y a quelque chose. Au-delà de cette double explication insuffisante, du nivellement simplificateur à la myopie trop souvent oiseuse et sursignifiante du terme à terme, en somme du pas assez de mots au trop de mots, comment procéder? En effet, ce danger de la bipartition entre fonctions positives et fonctions négatives est de se retrouver avec un clivage simpliste par lequel les perspectives de lecture de Volodine seraient réduites à une alternative entre une déconstruction du roman et sa reconstruction, entre un pessimisme de type fin de l'histoire et un retranchement naïf dans la pure forme du mot. Je souhaite dépasser ce clivage en le poussant à son extrémité et en évoquant la notion de stratégie du silence. Le silence du signifiant occasionné par l'aphasie, la fin de la parole, le silence du signifié qu'engendre la logorée, l'installation à demeure dans un rythme chamanique où la volupté du mot, au passage on aurait pu aussi parler de la proximité phonique entre le mot de volupté et le nom de volupe. Donc autant de phénomènes qui conduisent celui qui en fait l'expérience à une forme de satiété ou de saturation sémantique. Le silence est en effet l'invitation au dialogue, dialogue critique et fécond, lorsque cet air s'est laissé l'autre prendre la parole ou les armes, à la suite de ses propres actes de parole ou de violence, actes qui sont parfois, ai-je besoin de le préciser, unis dans l'écriture volodinienne pour le meilleur et pour le pire. La liste, indice d'un silence à venir, d'une alternative au bruissement de la langue romanesque, réintègre donc au sein du texte post-exotique et au sein d'un champ littéraire tout entier fondé sur la linéarité syntaxique de la langue, un processus de réticence, d'interruption et de doute. Une respiration qui laisse libre cours à l'établissement d'un contre-champ dialogal. Ce dialogue, sur un mode mineur, n'est-il pas celui que nous menons ici ensemble ? Le pastiche du discours scientifique, tel qu'il est construit dans la stratégie du silence de Robert Méhi-Pirot, conduirait alors à un élargissement supplémentaire des frontières du post-exotisme, phagocytant ou se diluant dans ou épousant le discours critique qui le commente. En d'autres termes, si l'on peut dire que le silence après du Volodine est encore du Volodine, l'annexion de nouveaux territoires du réel par le post-exotisme est loin d'être terminée. Pour conclure, la liste trouve son intérêt à mes yeux aussi bien en tant que phénomène de disruption de la langue, qui fonde une recollectivisation du discours sur un mode mineur et localisé, que par la fragmentarité dont elle procède et dont elle suggère la présence au sein de la langue, plus particulièrement au sein de la langue romanesque, et du monde, plus particulièrement au sein d'un monde fondé sur les fictions historiques, géographiques ou mythiques qu'il produit. La liste est centrale chez Volodine parce qu'elle ressortit d'un même rapport conflictuel au tout, à l'un, au monolithique. Elle est à la fiction narrative ce que le chamanisme ou l'animisme sont au monothéisme, ce que la fracture des réseaux politiques est à l'utopie communautariste, ce que l'écume est à la sphère une, pour reprendre les termes de Peter Sloterdijk. Elle est à la représentation la plus radicale d'une lutte contre le langage qui court à travers la littérature volodinienne, lorsque le langage justifie par son apparente unité et son organisation syntaxique le mensonge de l'unitarisme. En somme, avec la liste, les mots se font eux-mêmes nomades en s'affranchissant de la phrase, et pour reprendre un jeu de mots deleuzien qui ne fait plus rire personne, je n'hésite pas à ajouter que le nomadisme est ici une solution au monadisme. Voilà. Pour terminer, je souhaite donner l'écho de l'idée exprimée par Antonin Vizer mardi, que j'aime bien, une idée que j'aime bien, mais dont je ne sais pas si elle s'avère très opératoire pour mon propos, selon laquelle le monde volodinien s'organise sous forme de micro-communautés, se partageant les reliquats d'un monde en débâcle, que l'éclatement de la grande bulle a relégué dans ses marges. Le logos unique a disparu, et si, comme le disait hier Frank Wagner, il y a un vrai quelque part, si l'on continue en vain d'interroger et de torturer pour trouver une vérité en laquelle on veut croire, c'est que les parois invisibles de la bulle éclatée forment toujours dans l'espace le destin de la place qu'elle occupait avant. Si la vérité démange, c'est au même titre que la démangeaison provoquée par un membre fantôme. En suivant cette idée, et comme on a pu parler de géométrie non-euclidienne ou pré-euclidienne, il faudrait sans doute, pour décrire ce qui est à l'œuvre dans la littérature volodinienne, parler de logique pré-socratique pour qualifier le retour à un état non métaphysique, dépourvu de certitude centrale qu'impose le logos platonicien. Le modèle de la liste volodinienne pourrait alors étrangement être Homère. Listeur rendu incompréhensible au sein de la modernité par l'absence de références stables de ces listes, notamment celles des vaisseaux grecs stationnant devant Troie au champ 2 de l'Iliade. Listes qui ne peuvent être comprises quand, je cite Sloterdijk, qu'en reconquérant le pluralisme pré-métaphysique des inventions du monde. Fermez les guillemets. Qu'en réinvoquant un espace d'énonciation relatif, limité à l'horizon du conte, du souffle, dépourvu d'absolu, démédiatisé et changeant. Voilà, j'aurais été stratégiquement très mauvais dans un contexte post-exotique, j'ai trop peu parlé d'autres choses par rapport au programme que je me proposais de suivre et j'ai été fort peu silencieux. Je remédie à cela de rechef et je vous remercie de votre attention.
Merci Gaspard Turin. Vous comprendrez que après le dernier coup qui vient de m'advenir, je me taise parce que voilà maintenant 5 jours que j'essaye de préserver ce qui me reste de communication. Je croyais me protéger avec Homer, mais même pas. Alors, voyez-vous, le post-exotisme est dans tout. Alors, et n'oubliez pas de vous identifier, s'il vous plaît. Oui. N'oubliez pas de vous identifier, s'il vous plaît, avant de prendre la parole. Question, nous avons le temps. Oui, Valérie.
Gaspard, tu prends la liste de façon indifférenciée. D'ailleurs, tu dis la liste. Est-ce qu'on ne peut pas, mais peut-être que le temps est manqué pour le faire aujourd'hui, quand même prendre les listes et des listes en écho diffracté les unes avec les autres pour montrer qu'il y aurait évolution, c'est la vie, mais disons variation au sens musical dont on avait pu déjà l'évoquer, et que la liste, me semble-t-il, d'œuvre en œuvre, se complexifie dans sa façon d'être établie.
Tu as raison. J'ai envie de répondre simplement à cette constatation en donnant une idée selon laquelle la littérature de Volodine se rapproche un peu de celle aujourd'hui de celle de Valère Novarina, c'est-à-dire d'une complexification du phénomène de liste en direction d'une accumulation, en direction d'une folie, d'un désordre. En même temps, on trouvait déjà ça dans Lisbonne dernière marge, il y avait déjà des accumulations folles de... Mais dans l'ensemble, je suis d'accord, je serais plus prudent quant à... Enfin, je resterais prudent s'il fallait vraiment tenter de prouver une évolution dans l'œuvre sur ce plan-là. Mais c'est possible, mais j'en sais rien. Peut-être que tu as une idée derrière la tête, probablement.
Non, mais plutôt que de dire les choses de façon interrogative, vous voulez ton avis, parce que je suis précisément sur les listes, mais je pense qu'il y a une complexification de la nature des différents éléments qui constituent les listes de la première à la dernière œuvre, entre guillemets, pour l'instant. Alors, cette complexification n'est pas systématique, mais pour le dire... vraiment très mal, et je m'en excuse, la liste me semble plus travaillée et plus subtile, entre guillemets, et encore, dans les dernières œuvres qu'elle nous était au départ. Peut-être un peu selon la formule, dans le genre ou les réaliserons, quelque chose de la technique qui se met en place par une appropriation de l'écriture, et je pense, enfin je ne veux pas m'avancer non plus, mais une jubilation aussi plus grande peut-être de l'auteur.
Oui, effectivement, et ce que tu me dis me fait en fait penser qu'il y a probablement notamment de par l'apparition de, assez récente dans le Volodine de la fonction de traitement de texte qu'on appelle la puce, qui irait dans le sens d'une fragmentation du propos plus générale que la liste qui serait strictement lexicale ou même de syntagme, qui, au-delà de laquelle je ne suis pas allé évidemment ici, mais le propos comme ça listé, effectivement, c'est, on va un peu plus loin dans l'organisation générale de l'œuvre. En utilisant ces puces, par exemple.
Oui, Mélanie.
Oui.
Nommez-vous
Mélanie Lamar.
Mélanie Lamar. Connaissez son prénom.
Tu as parlé de jouissance, de volupté du verbe, sans quoi je pense que nous sommes tous d'accord. Et moi, il y avait un mot quand même qui me venait à l'esprit, c'est quand même la figure de style de l'anaphore, la notion de litanie, de phonie, de rythmie, de lyrisme discret du texte volodinien, qui, moi, me frappe beaucoup. Je trouve qu'il y a dans la liste une dimension consolatrice du langage, une fonction, une fonction consolatrice, c'est ça. Notamment le passage, par exemple, de Don Dog, la maîtresse là, qui est enfouie, enterrée sous tous ses champignons. On a cette dimension assez forte, à mon avis. Voilà, est-ce que tu intègres ça à un moment donné à ta réflexion dans ton travail qui doit être aussi plus vaste, je pense, sur ces questions.
Non, mais c'est très intéressant, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ça rejoint un petit peu ce que disait Anne Roche ce matin, l'idée de guidance. Qui est une idée, qui est un concept très fort et guidage, pardon, guidage. Je crois qu'on a dit. Ah, guidance, c'est de l'anglais. Guidance, te plaît mieux.
Oui.
Voilà comment se font les grandes idées, voyez. Voilà. Mal entendu. l'idée me plaît beaucoup que, effectivement, mais ça transparaissait de manière un petit peu, enfin, c'était un peu translucide, je pense, dans l'exemple que j'ai donné de Don Dog. Effectivement, Don Dog raconte son enfance et amène, il y a un dialogue, évidemment, il y a une guidance de Don Dog, narrateur du texte, au Don Dog enfant qui vit le traumatisme de l'interrogatoire de sa mère, et il y a un aspect consolateur de Don Dog à son soi-même enfant qui revient à dire regarde tout ce que tu aurais pu dire, tu n'avais pas tout ce vocabulaire, mais je te l'amène, tu aurais pu dire tout ça, tu aurais pu t'en sortir, je te donne des armes pour te sortir de ce traquenard dont tu n'as pas pu te sortir, parce que tu as dû avouer finalement que la maîtresse était un vieux champignon pourri. Et si tu avais eu cette richesse du mot, tu aurais pu peut-être t'en sortir. Et c'est précisément cette richesse du mot qui est un lieu de secours, une sorte de deal utopique peut-être, de secours, je ne sais pas, est-ce qu'il y a probablement aussi quelque chose à voir avec la notion d'île dans ces questions-là, pour les protagonistes volodiniens. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi.
Derrick ?
Oui, mais il me semble aussi que c'est une façon de guérir lui-même en tant que narrateur pour Don Dog de l'aphasie dont il est affecté. Et donc c'est une stratégie du silence par négation d'une impossibilité de parler, en fait.
Voilà, exactement. Ça rappelle un petit peu les moments où on est pris au dépourvu parce qu'on est dans une situation un peu stressante, peut-être dans celle dans laquelle je me trouve maintenant, où tout d'un coup on est sommé de parler et on ne trouve pas ces mots. Et quand on y réfléchit, après qu'on y réfléchit, j'aurais pu dire tout ça et tout ça. Et tout ça. C'est presque un tic du littéraire, de retrouver après coup tout ce qu'on aurait pu dire dans le cadre d'un conflit verbal notamment. Vous avez sans doute tous vécu ça. Nous, on dit « Ah, j'aurais dû lui répondre ça ». Moi, il y a un peu de ça là derrière. C'est voilà tout ce qu'on aurait pu dire à ce sujet. Voilà, c'était là.
Oui, Thierry.
Oui, Thierry, c'est intéressant. Oui, je pensais simplement dans la lignée de ce que vous dites aussi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fuite, pas seulement de la consolation, mais la fuite et
de l'échapper, oui, effectivement.
Ouais, l'échapper de le mot que j'ai utilisé plusieurs fois. Et en plus, Deleuze disait la fuite est révolutionnaire, parce que c'est pas fuir pour fuir, mais c'est fuir en cherchant une arme. Et voilà, et là j'ai des mots, je cherche des armes. Ça rejoint exactement.
Tout à fait. Hein. Mais bon, là, le lien entre armes et mots n'est plus à faire. Évidemment. Je crois qu'il y avait Antonin Vizère.
Non, mais j'ai eu Patrick d'abord. Hein.
Patrick, voilà. Je voudrais abonder un peu dans le sens de Dominique pour préciser que c'est peut-être pas une évolution, mais une libération du carcan de la fiction. Est-ce que tu as vu la Chago de la voix et des herbes?
Ben, c'est ce qui vient de paraître en avril. Oui, ben, c'est ce dont je parlais en fait, sans savoir, sans pouvoir le nommer.
L'explication, c'est bon, un minimum de cadre fictionnel, et ensuite il y a un maximum de plaisir de la liste, et qu'il y a une valeur médicale presque, de consolation.
Oui, oui. Oui, tout cas, ça c'est très intéressant. Ça, j'aime beaucoup cette idée de plante médicinale. Il y a une forme, c'est presque chevillardien de comment ça s'appelle, le terme m'échappe. Bref, oui.
Antonin, comment s'appelle-t-il?
Antonin Vizère.
Antonin,
merci pardon. Merci de cette présentation. Je voulais poser une. Je ne sais pas, soumettre un cas de liste non actualisée, en fait virtuelle, qui apparaît dans des anges mineurs qui m'est revenu quand même, qui présentait, qui est le cas de Fred Zenfeld, dont on apprend qu'il est écrivain, qui comprend, mais qu'est-ce qu'il préfère faire, c'est en fait des lexiques, et puis recueillir les mots des temps. Donc il y aurait quelque chose qui, si j'ai bien compris, irait du côté de la liste qui est celle, en globant, celle encyclopédique, faire moins, et en même temps, bon, je n'ai pas le texte, il est dit que, dans le fond, il a tenu fort peu de mots de tous ceux qui circulaient dans les temps, et puis que, donc, il y a une forme de silence dans le fait qu'il lui manque pas mal de vocables qui sont utilisés pour parler du monde. Mmh. Et est-ce qu'il y aurait une place pour quelque chose comme une stratégie?
Oui, en tout cas, une encyclopédie ratée, c'est sûr. Oui. La liste, une encyclopédie, est une sorte de d'hyperliste, hein, au sens même strict du terme, c'est une hyperliste. Le travail de Fred Zenf est voué à l'échec parce qu'il n'aura jamais assez d'entrées pour pouvoir faire fonctionner son lexique de manière en réseau, en fait. Mais c'est une. Oui, c'est une. Là encore, pour moi, c'est une récupération. C'est une récupération d'un monde en débâcle. C'est une liste mélancolique, en fait, d'une certaine manière.
Frédéric
a remarqué, cela dit, que dans les 10 ouvrages que cite Volodine, quand le libraire a dû prendre sa retraite et qu'elle a demandé à plusieurs. Il y a notamment le livre de Jacques Rossi, Manuel du Goulag,
oui,
qui est mentionné à côté des récits de la Colonna de Chalamet. Oui. Peut-être juste.
Rituel du Goulag?
Non, Manuel.
Manuel.
C'est vraiment sous forme avec des entrées, comme dans un dictionnaire.
Mais on parlait l'autre jour de. Du récit écrivain que Volodine nous a lu et du fait que ça vient d'une liste réelle de morts et d'un mausolée un peu avorté à Moscou. Je crois qu'il y a un autre exemple très 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 clair qui se rapproche de cette idée là, c'est la liste de Serge Klarsfeld. Qui est considéré qui était un jour décrit par Modiano comme le plus beau roman de la deuxième moitié du XXe siècle. Voilà, le plus beau roman est une liste.
Et on voit aussi aux installations de Boltanski.
Exactement, oui, absolument. Absolument.
Oui, d'accord. Oui.
Oui. Gaspard, si ça n'est pas déploré tes recherches, est-ce que. Vous pouvez voir et nous dire éventuellement une spécificité des listes volodiniennes par rapport aux autres auteurs que tu étudies.
J'essaie surtout de trouver des points de convergence plutôt que des spécificités. C'est plutôt mon souci. Des spécificités.
Ta réponse peut me convenir tout à fait.
Non, j'essaie de pas trop en voir parce que c'est pour l'instant, c'est ce que je trouve le plus difficile, c'est de rassembler. C'est aussi une liste d'auteurs que j'ai, c'est aussi un continent en débat, c'est aussi un archipel qui s'éloigne, dont les îles s'éloignent les unes des autres. C'est mon plus grand problème méthodologique, c'est d'établir un lien solide entre tous ces gens-là.
Oui, alors moi, je vais rompre mon vœu de silence au nom d'Homère auquel vous m'avez tous confiné. J'ai trouvé que votre exergue avec Toussaint était presque l'exemple contraire, parce que là, manifestement, on a des injures homériques avant le combat. Mm-hmm. Hein, on a une liste agonique. Tiens, je t'envoie ça, tiens, tu me réponds ça, et qu'est-ce que tu dis de ça? Alors pourquoi l'avoir choisi?
Vraiment, à la base, c'était pour parler d'autre chose. Puis par une sorte de blague privée avec moi-même. Parce que la seule et unique fois où je suis venu ici avant, c'était pour...
Non,
d'accord.
Non, dans le passage de Toussaint, c'est pas polémique.
C'est tout à fait pacifique.
C'est pour communiquer.
Oui, mais... Ah oui, mais en prenant quand même la forme d'un discours polémique, enfin quand même.
Il y a quand même, pour moi, c'est quand même un peu des armes, ces mots-là.
Ah oui.
C'est des armes bénignes, mais c'est des armes quand même.
Ils se quittent très bons amis.
Oui.
Oui, oui. Tout le monde se quitte juste bons amis chez Toussaint, de toute manière.
C'est justement ça qui est intéressant, cette ambiguïté, justement.
Voilà.
C'est un combat en vue d'un apprivoisement.
Mais tout est jeu, tout est ludique.
Je suis d'accord, mais c'est juste que c'est un enjeu de
verbal. Les questions, oui. Oui. Ça ressemble beaucoup aux années 60, d'ailleurs. Hein.
Mais vous ne pouvez pas dire ça après Lacan, silence.
Non, mais je pourrais ajouter quelque chose. Ça me fait penser à je ne sais pas si vous êtes au courant, dans les années 70, les gens, souvent des situs, qui doublaient des films de kung-fu, comme l'a dit Mao, comme l'a dit Pain.
Ouais.
Alors, s'il n'y a plus de questions, ça va. Alors, merci beaucoup.